Le journal Frédéric Barrère. Bonjour Frédéric.
Bonjour Ali Badou, bonjour à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, la progression de l'épidémie de coronavirus avec des mesures en France et en Europe pour contrer une nouvelle crise sanitaire. En France, plusieurs hôpitaux ont réactivé le plan blanc. Nous irons à Montpellier dans un instant. Et au Royaume-Uni, les autorités envisagent de plus en plus clairement un nouveau confinement général. La campagne pour la présidentielle américaine bouleversée ce matin après la mort de la doyenne de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg. L'enjeu de son remplacement est au cœur du combat entre Donald Trump et Joe Biden. Dans ce journal également, les journées européennes du patrimoine, sur Internet la plupart du temps, le Tour de France, avant-dernière étape aujourd'hui, et une invitée en or, Catherine Destivelle, l'une des plus grandes alpinistes de l'histoire. La météo de ce samedi, instable avec des orages et beaucoup de pluie depuis ce matin, dans le Gard, l'Hérault et la Lozère. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal. À 13h20, secret d'info, au programme aujourd'hui, Jacques Monin.
Eh bien, on va vous raconter pourquoi la France a manqué de masques en février et en mars dernier, et ce, alors que deux alertes avaient été lancées dès 2018.
Secret d'info, Jacques Monin à 13h20.
France Inter.
Comment faire face le plus efficacement possible à la progression de l'épidémie de coronavirus? Tous les signaux sont inquiétants. La France a enregistré hier plus de 13 000 cas positifs. Le nombre d'admissions à l'hôpital et en réanimation progresse sensiblement depuis une semaine. Les tests salivaires autorisés depuis hier pour certains patients symptomatiques ne suffiront sans doute pas, selon les spécialistes, à désengorger les laboratoires. Une nouvelle crise sanitaire est devant nous, et après l'Île-de-France, où les hôpitaux ont réactivé le plan blanc, le CHU de Montpellier a également redéclenché son plan blanc. Le niveau 1 est activé depuis hier soir pour dégager des lits supplémentaires et notamment en réanimation. Le CHU peut aussi déprogrammer des opérations non urgentes. Une mesure d'anticipation à Montpellier face à une multiplication par deux des admissions en 10 jours. Montpellier, Romain Bercher.
La marge de manœuvre du CHU de Montpellier est très limitée en ce moment puisque l'activité est très importante. Les patients en réanimation pour cause de coronavirus ne peuvent donc pas être déplacés dans d'autres services, explique le professeur Patrice Taourel.
Vous allez me dire, un grand CHU comme le vôtre, 15 patients, pourquoi vous n'arrivez pas à les accueillir? Mais parce que toutes les réanimations sont complètement pleines de patients non Covid.
Des patients en réanimation suite à des opérations qui avaient été décalées au début de la crise. La réactivation du plan blanc devrait donc donner un peu d'air au CHU dans les prochains jours, avec un nouveau report de certaines interventions. D'autant qu'il manque de bras. L'absentéisme du personnel soignant est très fort pour de multiples raisons. François Bérard est le directeur général adjoint du centre hospitalier.
Ils ont été cas contact et la stratégie est évidemment de les isoler. Et donc du coup, si vous ajoutez à ça les écoles qui peuvent fermer et qui font que on a des jeunes professionnels qui ont des enfants en bas âge, sont obligés de les garder à domicile parce qu'ils ne sont plus accueillis en crèche, la combinatoire de tous ces motifs-là fait qu'on a une augmentation significative de notre absentéisme en cette période de rentrée.
Le CHU de Montpellier va donc augmenter d'ici une semaine le nombre de lits de réanimation pour patients Covid. Les places disponibles passeront de 15 à 20 sans toucher d'autres services, promet la direction.
Romain Bercher de France Bleu Hérault. À Nice et à Toulouse, les préfets ont interdit les rassemblements de plus de 10 personnes dans les parcs notamment, ainsi que sur les quais ou à la plage. Les bars et restaurants ferment plutôt entre minuit et demi et 6 heures. De nouvelles restrictions pour éviter un reconfinement. Et justement, en Grande-Bretagne, où l'inquiétude est là aussi grandissante, on évoque de plus en plus un nouveau confinement général. Jusqu'ici, le gouvernement l'avait toujours repoussé. Mais aujourd'hui, cette option est clairement envisagée. Londres, Richard Place.
Un désastre pour l'économie. Voilà comment Boris Johnson parlait d'un nouveau confinement général il y a 3 jours. Vraiment le dernier rempart, ajoutait son ministre de la Santé. Mais la contamination galopante et la pression du corps médical ont fait réfléchir le gouvernement. Ce n'est plus un gros mot dans leur réunion, le Premier ministre l'a reconnu.
Il n'y a aucun doute, comme je le dis depuis plusieurs semaines, que nous pouvions redouter une deuxième vague. Nous la voyons en France, en Espagne, à travers l'Europe. C'était absolument inévitable de la voir ici. Personne n'a envie d'un deuxième confinement, mais clairement, quand vous voyez ce qui se passe, vous devez vous demander s'il ne faut pas aller plus loin.
Avant d'en arriver au confinement, il y aura sans doute une gradation, comme la fermeture des restaurants, des bars, des pubs, tous les lieux de socialisation après 10 heures du soir. C'est déjà en vigueur dans une bonne partie du pays. Si l'épidémie n'est pas enrayée, c'est alors la fermeture pure et simple de ces lieux qui est envisagée. Les restaurants pourraient continuer de servir des plats à emporter. Le gouvernement veut absolument garder les écoles ouvertes. Si un confinement devait être décidé, ce serait sans doute en octobre, pendant les vacances scolaires. Londres, Richard Place, France Inter.
En Italie, un référendum très attendu, notamment par les élus. Pendant 2 jours à partir de demain jusqu'à lundi, en raison de l'épidémie de coronavirus, les Italiens, 51 millions d'électeurs, sont appelés à répondre oui ou non à la réduction du nombre de parlementaires. Les électeurs voteront aussi pour les présidents et les conseillers régionaux, ainsi que pour des municipales. Mais en temps de pandémie et de crise sanitaire, il n'est pas simple d'organiser tous ces scrutins. Les explications à Rome, Bruce de Calzin.
Vote à domicile pour les électeurs en quarantaine, vote à l'hôpital pour les malades et opération bureau de vote anti-Covid déclenché par le ministère de l'Intérieur pour les personnes âgées. Tout cela afin de tenter de rassurer et de mobiliser un électorat fragile. Un tiers des électeurs de la Ligue et du Parti démocrate ont plus de 65 ans. Ils seront donc prioritaires avec des files d'attente dédiées et sont même appelés au téléphone par le Parti démocrate pour voter lundi quand il y aura moins de monde. Nombre d'écoles serviront de bureaux de vote alors qu'elles viennent à peine d'ouvrir et seront donc fermées jusqu'à mercredi au moins. Sarah passe son bac cette année, elle ne comprend pas cette organisation.
Ça aurait été tellement plus sensé d'anticiper les cours ou bien de repousser la rentrée. Parce que cette année, c'est déjà très compliqué de gérer les espaces, la distance. Il faut du temps pour nettoyer et du temps scolaire. On en a déjà tellement perdu et on va en perdre encore. En plus, s'il y a un deuxième tour, on va encore refermer les écoles.
Mais un deuxième tour n'est prévu que pour les municipales et la seule Toscane, enjeu principal des élections régionales, car elle pourrait basculer à droite. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Autre information de la matinée avec des répercussions. Aux États-Unis, à 1 mois et demi de la présidentielle, on a appris la mort de la doyenne de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg. Une disparition qui électrise la campagne américaine. La doyenne de la Cour suprême, figure de proue du camp progressiste, est morte à l'âge de 87 ans. Le président Donald Trump a salué la vie exceptionnelle de Ruth Bader Ginsburg. Mais désormais, l'enjeu de son remplacement est au cœur de la campagne et du combat entre Donald Trump et Joe Biden. Son remplaçant ou sa remplaçante sera-t-il nommé avant ou après l'élection présidentielle? Jean-Éric Brana, maître de conférence à Assas, spécialiste des États-Unis, avec Christian Chéneau.
Ça pose problème d'autant que les Républicains ont créé une jurisprudence, si on peut dire, puisque en 2016, ils se sont opposés à une nomination de Barack Obama. C'était quasiment un an avant l'élection, mais ils ont estimé qu'en année électorale, il n'était pas fair play de changer le juge et que c'était au prochain président choisi par le peuple de faire cette nomination, puisque ces juges sont nommés à vie. Cette fois-ci, on est à 45 jours de l'élection. C'est vrai que la nomination peut aller très vite. Le président peut nommer quelqu'un dès lundi, et puis ensuite, il faut en moyenne 25 jours pour confirmer un juge à la Cour suprême. Tout ça, c'est s'il n'y a pas de grains de sable dans la machine. Or là, les problèmes politiques, ils vont forcément se dresser parce que la majorité de Trump est certes avérée au Sénat, mais elle n'est pas si forte que ça. Il a 3 sénateurs d'avance. Il lui faut donc être sûr que tout le monde va voter derrière lui, mais si 4 sénateurs lui font défaut dans son camp, alors il ne pourra nommer personne.
Et pour mieux comprendre le fonctionnement des institutions américaines, Jean-Éric Brana vient de publier aux éditions Ellipse un ouvrage sur la Constitution américaine et les institutions.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Barrère.
Les journées européennes du patrimoine vont souvent se dérouler ce week-end sur Internet. C'est le cas pour la RATP qui fête les 120 ans du métro en raison de la crise sanitaire. La RATP vous propose sur son site de nombreuses visites virtuelles comme la station cinéma de la RATP. Porte des Lilas se trouve cette station. Cette année, les visites se feront uniquement sur Internet. Isabelle Pasquier nous fait visiter, elle, en vrai, cette station cinéma.
On est juste devant la porte qui nous emmène dans notre studio cinéma. C'est une porte secrète. On passe du monde réel à la fiction.
C'est une vraie station de métro années 30, avec selon le tournage, une rame de la même époque, ou années 60, ou bien sûr d'aujourd'hui. Ici, une dizaine de films sont tournés chaque année. Une époque formidable, Diplomatie, Amélie Poulain, et même Kevin Costner dans Sweetest to Kill. Karine Lehongre est responsable des tournages.
Depuis les années 30, elle n'est plus en fonction, et on a gardé volontairement tout un décor années 30, ce qui permet de couvrir les périodes de la Seconde Guerre à aujourd'hui. C'est Port des Lilas, mais c'était renommé avez Concorde pour les Femmes de l'Ombre, Abbès pour Amélie Poulain, et évidemment la station cinéma elle permet aussi de faire les poursuites sous tunnel. À bout portant de Fred Cavaillé, Guy Lelouch va s'enfuir sous tunnel et ressortir par la magie du cinéma à Saint-Lazare. Alors, je vous invite à vous équiper de chaussures de sécurité ainsi qu'un beau gilet orange de sécurité pour circuler sous tunnel. Alors là, on va descendre sur les voies pour aller rejoindre à pied toute la zone où il est possible de travailler sous tunnel. Évidemment, on a demandé la coupure de l'alimentation de la voie.
Après 1 km, on arrive à la station fantôme AXO qui permet la circulation des rames pour les tournages. Mais c'est étrange, on n'est pas ressorti à Saint-Lazare.
Visite des lieux secrets du métro parisien à retrouver sur la plateforme Bienvenue à bord de la RATP. La 5G, la connexion mobile de 5e génération, est au cœur d'un débat animé et passionné. Hier, l'Europe a appelé les 27 États membres à accélérer le déploiement de la 5G pour ne pas prendre de retard. Et ce matin, sur France Inter, le PDG d'Orange, Stéphane Richard, invité d'Alexandra Ben Saïd dans N'arrête pas l'écho, a estimé que ce débat sur la 5G est selon lui un problème francophone. Stéphane Richard.
Il y a quelques grandes questions qui se posent sur la 5G. Le risque sanitaire, l'exposition aux ondes. Le gouvernement a apporté un certain nombre de réponses. Permet de dire qu'il y a 20 000 études qui ont été faites partout dans le monde depuis 20 ans sur les dangers de l'exposition aux ondes électromagnétiques. Il n'y en a pas une seule qui a jamais mis en évidence le moindre fait avéré sur ce sujet. Après, moi je suis quand même frappé de voir que dans la plupart des pays ou des régions qui sont les plus avancées en termes de conscience environnementale et de politique environnementale, il n'y a pas de débat sur la 5G. Vous avez des foyers de contestation sur la 5G dans les pays francophones, en Belgique, en Suisse et en France essentiellement. Ensuite, il y a le problème des smartphones. Est-ce que les gens changent trop de smartphones? Sans doute. Est-ce qu'il y a de l'obsolescence programmée? On le sait tous très bien. Est-ce qu'il faut s'attaquer à ce problème-là? Certainement. Nous, on essaye de le faire avec nos moyens, c'est-à-dire le recyclage. Et nous comptons utiliser justement l'arrivée de la 5G, qui va entraîner un certain renouvellement des terminaux, progressif, etc., pour augmenter très fortement l'ambition en termes de recyclage.
Stéphane Richard, le patron d'Orange, avec Alexandra Ben Saïd. Lure, la planche des belles filles, un contre-la-montre individuel pour la 20e et avant-dernière étape aujourd'hui du Tour de France, et avec une arrivée en côte. Sur la route du Tour, on retrouve en direct Jean-Pierre Vlimo. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Frédéric.
Et les premiers départs viennent d'être donnés.
Oui, et s'il devait subsister un suspense sur ce Tour de France, ce serait sur ce dernier chrono. Hein. 36 km dont les 6 derniers en côte à 8%. Avantage Primoz Roglic pour l'instant, le Slovène en jaune depuis les Pyrénées. Son compatriote Tadej Pogacar suit à 57 secondes derrière. L'écart n'a pas bougé depuis les Alpes. Et au championnat de Slovénie, Pogacar a devancé Roglic de 9 secondes. Maigre indicateur avant l'explication finale. Mais aujourd'hui, c'est surtout une journée chargée d'émotions pour le régional de l'étape. Thibaut Pinot, né à Lure, originaire de Mélisée, petite commune située sur le parcours, dont le maire est son propre père. Thibaut Pinot, qui traîne sa misère depuis la première étape à Nice et une chute qui l'a handicapé au dos. Pinot qui rêvait de passer la journée en jaune sur les routes de son enfance à la veille d'un possible triomphe. C'est raté, mais le Franc-Comtois va tenter quand même de profiter du moment. Un petit bonheur sur ce Tour 2020, comme il l'a dit hier en devant les journalistes.
Merci Jean-Pierre Blimeau avec Jean-André Giannichini pour les moyens techniques. On reste en montagne après l'école du Tour de France, puisque nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'une des plus grandes alpinistes de l'histoire. Bonjour Catherine Destivelle, bienvenue dans le 13h de France Inter.
Bonjour.
On vous reçoit aujourd'hui parce que vous allez recevoir l'une des distinctions les plus prestigieuses dans le monde de l'alpinisme, de l'escalade et des ascensions hors normes. Vous allez recevoir le Piolet d'or pour votre carrière et c'est la première fois qu'une femme reçoit cette récompense la plus élevée dans votre discipline. J'imagine que c'est une grande fierté pour vous, Catherine Destivelle. On le compare au Ballon d'or en football.
Oui, oui, c'est une grande fierté. J'étais assez surprise, à vrai dire, parce que je m'y attendais absolument pas. Ceux qui l'ont eu avant moi, je trouvais qu'ils avaient fait beaucoup, beaucoup plus de choses que moi. Et puis, je suis aussi parmi les plus jeunes à le recevoir. Et du coup, j'étais assez surprise de recevoir. Mais je suis contente parce que finalement, ce que je vois, c'est qu'autour de moi, tout le monde est ravi et que ça me plaît bien de continuer à inspirer les jeunes qui veulent en faire ou les femmes aussi qui veulent aller en montagne. Donc c'est voilà, je suis contente.
Mais nous aussi, on est ravis et fiers de cette distinction puisque l'organisation des Piolet d'or dit de vous que vous êtes l'une des plus grandes alpinistes du monde, hommes et femmes confondus.
Oui, alors en fait, dans ma carrière, j'ai essayé de faire attention à faire des ascensions qui n'ont rien à voir avec le fait d'être une femme ou un homme, mais juste une alpiniste, un alpiniste. Et du coup, j'ai essayé de faire des premières tout court. Donc,
et des premières, ouais. Il y en a eu. Quelles sont les ascensions qui vous reviennent peut-être particulièrement aujourd'hui
alors,
à l'occasion ?
Celle qui m'a le plus marqué, c'était la face nord de l'Aigueur, où l'Aigueur, donc c'est la plus haute paroi d'Europe, qui fait 1700, un peu plus même, de mètres de dénivelé, et qui a été le dernier problème des Alpes, gravi en 1938. Et mon but, c'était de le faire toute seule, en solo, mais surtout sans repérage, contrairement à d'autres qui l'avaient fait avant, en solo, mais avec des repérages préalables. Et donc voilà, moi c'est la première fois que quelqu'un le tentait comme ça, et en hiver en supplément, mais l'hiver c'était surtout pour une question de sécurité. Je voulais pas me retrouver avec des chutes de pierre.
Et l'Aigueur venait après les Grandes Jorasses, c'est ça ? Venait après les Grandes Jorasses et le Cervin ?
Voilà, les Jorasses et le Cervin, et à chaque fois j'essayais de faire des premières aussi tout court. Voilà, et je les ai faites en hiver, mais c'est plus pour une raison de sécurité. Puis bon, je tiens bien le froid aussi. Donc voilà, mais à chaque fois j'ai essayé de faire en sorte que ce ne soit pas des premières féminines, mais juste des premières tout court. Après, voilà, ce qui a été retenu, c'était première féminine, et voilà, mais c'est pas grave.
Ouais, donc l'Aigueur ou beaucoup d'alpinistes y ont laissé leur vie.
Tout à fait. On disait que entre les années 30 et les années 50, 60 même, on disait que 50% des alpinistes qui tentaient cette face se tuaient. Donc c'était une paroi toujours dangereuse. Il y a toujours des chutes de pierre, il y a toujours des... Oui, c'est... Voilà, après, il faut la jouer tactique et faire attention de ne pas se mettre en risque.
Aujourd'hui, Catherine Destivelle, il y a aussi beaucoup de craintes autour de l'écologie, du réchauffement climatique, de la pollution. Est-ce que vous constatez ces effets sur les montagnes si vous continuez à gravir, à faire de l'alpinisme, de l'escalade?
Oui, alors nous aujourd'hui, les alpinistes, on voit à l'œil nu. Ça fait plus de 10 ans qu'on voit que les glaciers reculent, que les y a des parois qui ne peuvent plus se faire car l'accès est impossible, ou voire écroulé. J'ai ouvert une voie dans les Drues en 91, la paroi n'existe plus. Enfin, tout bouge, et même par période, on n'y va plus du tout. Par exemple, le mois d'août est une période assez dangereuse. Et donc c'est assez interpellant. Ouais. Après, j'espère que ça va s'arrêter. J'ai toujours été assez optimiste en général, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant.
Catherine Destivelle, vous êtes aussi récompensée pour votre carrière d'éditrice, pour votre métier d'éditrice aujourd'hui, puisque vous avez créé les éditions du Mont Blanc. Vous avez produit beaucoup d'ouvrages l'année dernière. Ce sont les ouvrages destinés aux enfants pour leur faire découvrir un peu cette montagne ?
Alors j'ai plusieurs collections, j'en ai 5 ou 6 dans les éditions du Mont-Blanc, mais j'ai créé une édition pour enfants, enfin une collection pour enfants, pour faire découvrir aux enfants ce qu'est la montagne et leur donner un petit peu les clés pour y aller, pour la découvrir, pour aller aussi grimper tout simplement, parce que aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui consomment et qui finalement connaissent pas trop ce qui s'est passé auparavant, et l'escalade va passer aux Jeux Olympiques l'année prochaine. Du coup, il y a plein de jeunes qui démarrent l'escalade, et le 4e sport scolaire en France. Et du coup, raconter un petit peu quels étaient les pionniers de l'escalade. Bon, je trouvais ça important. Et puis de leur donner aussi les clés pour débuter l'escalade, tout simplement.
Merci Catherine Destivelle, Piolet d'Or, récompense la plus élevée en alpinisme. La prescription culturelle signée aujourd'hui Jacqueline Petroz, et c'est une BD qui nous entraîne dans les coulisses du Hollywood de l'âge d'or, les années 40-60. Une histoire reflet d'une époque pas si glamour que ça, Jacqueline Petroz.
Dans cette BD hypnotique en un noir et blanc expressionniste, on croise Cary Grant, Hitchcock, Steinberg, Ava Gardner, John Ford ou John Wayne. Mais c'est la part d'ombre de la colline des rêves. Louis Fong décortique à travers la vie de Maximus Wilde, acteur de couleur, les années de racisme et de macartisme qui broient l'humain et qui ne sont peut-être pas si loin de nous. Maximus n'a pas existé, mais il est réel. Louis Fong.
C'est la synthèse de plusieurs personnalités. Hollywood, c'est un gigantesque système extrêmement élaboré, inspiré du taylorisme, c'est-à-dire la fabrication à la chaîne de stars manufacturées, fabriquées. Ça implique une énorme négation de l'humain. Tout ce qui crée le melting pot véritable de l'Amérique, avec toutes ses ethnies, n'est pas montrés à l'écran. Tous les gens qui ne sont pas blancs, c'est une espèce de masse comme ça. Quand on zoome sur la question, on se rend encore plus compte de tout ce que ça peut drainer comme souffrance, comme tragédie sur une très grande part de la société.
Un scénario captivant, documenté, Louis Fang nous plonge dans les arcanes d'une industrie qui orchestre la négation et l'invisibilité de l'autre. La force des dessins de Hugues Micol fascine. Blackout est une BD dense, sombre, qui interpelle.
Blackout de Louis Fang et Hugues Micol aux éditions Futurapolis. La météo de ce samedi.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R la mondiale. Avec Via Santé, plus que jamais, devenez acteur de votre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va ?
Jean-Michel Golinski de Météo France.
Maintien d'un temps calme cet après-midi du nord de la Seine à la frontière allemande. Ailleurs, l'ambiance va souvent tourner à l'orage en donnant encore de fortes précipitations jusqu'en milieu de nuit prochaine sur le Languedoc, placé en vigilance orange. Ceci en marge d'un épisode cévenol où l'air chaud et humide qui remonte de Méditerranée va donner de très fortes quantités de précipitations, en particulier sur le relief des Cévennes. Ailleurs, les orages seront plus marqués avec parfois de la grêle et des rafales cet après-midi entre la Bretagne et l'Occitanie. Et en fin de journée, des orages plus ponctuels sont probables sur la capitale et sur le sud de la Picardie. Les températures de l'après-midi, toujours élevées pour l'époque de l'année, vont afficher 21 degrés en moyenne près de la Manche et 25 à 30 plus au sud. À noter la nuit prochaine que les fortes pluies d'orage du Languedoc vont faire mouvement vers la région PACA.